Merci Catherine, merci pour cet accueil qui rappelle beaucoup de souvenirs avec les années, c'est vrai. On est content d'être avec vous ce soir, déjà de vivre le culte ensemble et puis encore en plus avoir le privilège d'apporter sa parole. Alors Dieu soit loué. Ok, amen. Alors je vous salue, nous vous saluons avec Myriam dans le nom de Jésus-Christ, que son nom soit béni. Ça va, vous entendez aussi derrière? Ça va? Coucou, ça va? Oui, vous pouvez vous approcher si vous voulez, mais c'est tout bon, quoi. Voilà. OK. Si vous n'entendez pas bien, vous pouvez toujours vous avancer. Amen. Voilà. Oui, ça fait toujours plaisir de revoir des amis, des frères et sœurs, et puis de continuer d'être dans cette communion fraternelle parmi beaucoup d'autres que... Son nom soit béni, vraiment. Voilà, donc, on m'avait demandé d'apporter la parole de Dieu aujourd'hui. Donc, je vais vous apporter quelque chose qui concerne le thème, on pourrait dire, c'est « il faut, il faut ». Je sais que c'est pas très... Voilà, je vois que ça commence déjà à faire des grimaces, n'est-ce pas? Non, non, je rigole. Parce qu'on n'est plus trop habitué à ça, c'est plus trop à la mode. Alors c'est vrai, on dit qu'il faut insister sur l'être aussi, et c'est vrai, combien c'est vrai. On a peut-être pendant un temps été très accentué sur le faire et tout. Il fallait peut-être rétablir un équilibre sur l'être, la vie intérieure, mais n'empêche que c'est quand même tout de même quelque chose d'important, je le pense, comme nous allons d'ailleurs le voir. Souvent, plusieurs fois, je me disais, je repensais à ces paroles de Jésus qui dit par exemple, « Il faut !» que vous naissiez de nouveau. Amen. Je dis, bon, ben, c'est OK. Pour nous, c'est OK, c'est acquis. Je suis né de nouveau, je suis born again, etc. Tout va bien, voilà. Mais il y a d'autres passages aussi où il y a ce verbe « falloir » qui est là, qui revient. Et puis, j'ai eu à cœur de creuser ça justement pour aujourd'hui, simplement. Et puis, j'en ai été béni moi-même, donc c'est la première fois que je prêche sur ce sujet-là, comme ça, voilà. Et puis, c'est ainsi que les choses ont avancé. Alors, c'est vrai qu'à la lecture des évangiles, nous trouvons cette puissante injonction qui revient à plusieurs reprises et qu'on a souvent traduite par le « il faut ». Si on va dans les textes originaux, on voit qu'on le retrouve près de 70 fois dans le Nouveau Testament. C'est pas mal. Alors, j'ai commencé par en établir une liste. D'ailleurs, je l'ai ici. Voilà. Donc, si vous souhaiteriez avoir tous les « il faut » qu'il y a dans le Nouveau Testament, j'en ai fait une photocopie d'une dizaine de feuilles, recto verso. Donc, si ça vous intéresse, vous venez me voir, j'en ai une dizaine. Donc, je vous la laisse volontiers. Parce que je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir tous les voir ce soir. OK. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant. Alors, il y a aussi le fait qu'à plusieurs reprises, cette idée, elle est traduite aussi plus de 30 fois par le verbe « devoir ». Voilà encore un verbe qui coince parfois, « je dois, tu dois, nous devons, etc. » Donc, ce n'est pas forcément toujours à la mode. Ça exprime, il est vrai, en tout cas dans la pensée biblique, une obligation. Mais souvent, elle est de moins en moins acceptée de nos jours et surtout dans notre culture occidentale. Et pourtant, il y a des textes qui nous le prouvent. C'est une pensée qui est incontournable dans de nombreuses situations. Voilà. Alors, c'est vrai que ces deux verbes, « devoir » et « falloir »,« il faut », ça nous parle vraiment d'une nécessité impérative, c'est indispensable. Il n'y a pas d'espace pour un choix, pour une option éventuelle. On aime bien les options et dans certaines choses, pourquoi pas. Mais il y a aussi parfois même dans la vie de Jésus, lorsqu'il en parle, un caractère vraiment d'urgence, quelque chose qui ne peut pas être forcément remis à plus tard. Alors j'en ai choisi quelques-uns là dans cette recherche aussi, dans cette découverte, si on veut bien. Et je reprends le texte que je citais tout à l'heure, dans l'évangile de Jean, un chapitre très bien connu, en tout cas pour nous évangéliques, où justement Jésus parle à Nicodème, n'est-ce pas, de la nouvelle naissance. Et il va lui expliquer que lui aussi, il doit naître de nouveau. C'est étonnant, n'est-ce pas, parce que c'est quand même un homme religieux, un chef des Juifs, est-il dit. Ça veut dire aussi qu'il jeûnait, il priait peut-être même jusqu'à 2 heures chaque jour au temple, il donnait sa dîme, etc. Et puis c'est clair aussi qu'il enseignait les textes sacrés. Mais, semble-t-il, il y avait quelque chose qui devait radicalement changer dans sa vie de l'intérieur. C'est intéressant de voir vraiment que, quand on lit les récits des évangiles, que Jésus s'adresse presque à chaque personne d'une façon différente. Vous êtes d'accord, hein? Nous-mêmes, des fois, pour trouver des modèles dans l'évangélisation, c'est très difficile parce que Jésus était très personnel et il a su s'adresser à chacun d'une certaine manière. Peut-être pas que pour Zachée, c'était nécessaire de lui dire qu'il devait naître de nouveau, donc qu'il devait changer de vie. Idem pour la femme samaritaine, par exemple. Elle savait bien qu'il y avait quelque chose qui tournait pas très rond dans sa vie, n'est-ce pas ? Mais le dire à ce personnage tel que Nicodème, c'est autre chose. Lui-même est étonné et Jésus insiste en lui disant « Ne t'ai-je pas dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau ?» Ça signifie vraiment que c'est comme un recommencement complet qui doit s'opérer à ce moment-là, n'est-ce pas ? Être ou devenir différent de ce que nous étions. Le texte aussi nous montre bien que cette transformation, elle est d'origine divine, puisque Jésus va dire que c'est une naissance qui n'est plus dans l'ordre naturel des choses. Et il le croyait vraiment, il se disait, mais est-ce que je dois retourner dans le sein de ma mère et naître ? Et Jésus lui parle vraiment d'une naissance d'en haut. Donc, qui vient d'ailleurs, qui vient de la part de Dieu. Bon, en tant que grand rabbin, peut-être le grand rabbin de Jérusalem, il doit aussi certainement tout de même connaître ce texte d'Ézéchiel 36, qui était une prophétie, où il était écrit, donc il y a bien des siècles auparavant, « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Amen, c'est fabuleux. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Je pense que ces passages rejoignent aussi ce que Paul disait, que si nous sommes en Christ, nous sommes en train de devenir des nouvelles créatures. Amen. Et que les choses deviennent passées et que toutes choses sont vraiment en train de devenir nouvelles. Et ça, c'est vrai pour tous ceux qui invoquent le Seigneur Jésus-Christ, comme il est écrit dans l'Épître aux Romains. On raconte l'histoire d'un certain nombre de barbiers, je crois que c'était aux États-Unis, qui s'étaient réunis dans une convention. Et puis, comme ils voulaient un petit peu faire à leur manière une promotion pour leur travail, leur profession, ils ont décidé d'aller cueillir dans les bas-fonds de la ville un brave clochard, n'est-ce pas ? Et ils l'ont bien entrepris puisqu'ils lui ont fait une belle coupe de cheveux, ils ont bien arrangé sa barbe et tout, ils lui ont fait un bain. Ils sont même allés avec lui chez un tailleur pour vraiment qu'il soit tip-top nickel, parfumé, pomponné, tout ce que vous voulez. C'était merveilleux, il dit « voilà ce que nous pouvons produire ». Voilà, une belle pub. Mais seulement 3 jours plus tard, ce brave homme était de nouveau dans le ruisseau et dans les bas-fonds. Pour quelle raison ? Parce qu'il n'y avait que l'extérieur qui avait changé et vraiment ce que Jésus-Christ a vraiment nous changé radicalement. Amen. Et c'est pour ça qu'il parle vraiment d'une façon tellement radicale en disant à tout homme, il faut que vous naissiez de nouveau. Et je pense que c'est vraiment bien que nous puissions toujours davantage, aller dans ce sens, nous-mêmes aussi, que nos vies continuent de changer. Amen. Mais aussi que nous puissions annoncer cette bonne nouvelle de la puissance de la transformation qui se fait au travers de Jésus. En tout cas, ici, il s'agit d'une nécessité absolue. Et Jésus le dit, nul ne peut voir le royaume de Dieu et y entrer s'il ne passe pas par cette nouvelle naissance qui est avant tout, bien sûr, une naissance spirituelle. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous en avons besoin et nous devons encore et toujours le proclamer. Je recevais un journal l'autre jour et je voyais qu'il se passe des choses merveilleuses dans le monde et on bénit le Seigneur pour chaque fois qu'il y a des vies qui sont transformées. Et on ne peut plus compter le nombre d'hommes, de femmes qui ont été transformés par le Seigneur. Je lisais l'autre jour qu'un ange de la mort est devenu évangéliste. Quand vous lisez ces histoires qui se passent aujourd'hui dans des pays comme la Syrie, où c'est qu'il y a des migrants, où c'est qu'il y a des réfugiés, où c'est qu'il y a des morts et tout. Et je lisais aussi, par exemple, que là-bas, ils font des baptêmes et ils vivent en quelque sorte les actes des apôtres au XXIe siècle, dans une région qui n'avait plus entendu l'Évangile depuis plus d'un siècle. Alors c'est merveilleux ce qui se passe quelque part. Dieu trouve même un moyen d'apprivoiser des terroristes. Voilà. Et il y en a un autre qui disait que Jésus l'avait rencontré. Alors on lui a demandé, mais comment, qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux dire, tu l'as rencontré en rêve? Et la question semble évidente, car c'est ce qui se passe pour 2 musulmans sur 3 qui se convertissent. C'est les témoignages que nous avons actuellement dans ce genre de pays. Mais il dit non, pas un rêve, assure-t-il. Il est apparu soudainement, physiquement, devant moi. Je voulais le toucher, mais je ne pouvais pas. Il était tellement saint. C'est prodigieux, n'est-ce pas, ce qui se passe aujourd'hui. Et je suis tombé, j'ai vu toutes mes atrocités devant moi. Sur mes genoux, j'ai imploré la grâce et le pardon. Quand j'ai relevé les yeux, Issa, donc Jésus-Christ, bien sûr, avait disparu. Amen. Mais sa vie a été puissamment transformée. Ça se passe encore ailleurs et nous devons, je crois, aujourd'hui nous attendre pour voir toujours davantage la puissance de Dieu. Si nous voulons un monde nouveau, nous avons besoin aussi d'avoir des hommes et des femmes nouveaux. Je continue quand même dans l'évangile de Jean, puisque là nous étions au verset 7 du chapitre 3. Nous allons encore un peu plus loin jusqu'au verset, des versets 14 à 16, où on va presque arriver à Jean 3, 16, mais juste avant Jean 3, 16, au verset 14, il est dit ceci, et comme Jésus dit ceci, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Waouh ! Là, Jésus continuait de s'adresser à Nicodème, qui était bien sûr censé connaître ces textes qui se trouvent dans la Torah, bien entendu, puisqu'il s'agit de Nombre, chapitre 21, avec ces serpents qui venaient et qui tuaient les gens jusqu'au moment où, enfin, on regardait à cette perche qui était là dressée, et quiconque regardait à cette perche avec le serpent qui était dessus, les gens conservaient la vie. Et là, nous voyons que Jésus est en train de dire que lui, il faudra qu'il soit élevé. Il est en train d'annoncer qu'il faudra qu'il passe par la croix. Amen. C'est prodigieux. Il faut que le Fils de l'homme de même soit élevé afin que quiconque croit en lui et il va la vie éternelle. Jésus devait absolument, c'était une nécessité de passer par la croix. Et tandis qu'il était élevé, suspendu entre le ciel et la terre, signe évident de l'amour de Dieu qui s'offre au monde. Il est là et rien ne l'a arrêté. Il n'a jamais pensé à lui, car il veut que toute l'Écriture se réalise à son sujet. Et combien de fois dans les évangiles il a dit il fallait que cette Écriture s'accomplisse à mon sujet. Et il est allé jusqu'au bout. Alléluia. Par exemple, il a dit, Jésus a dit quelque part, « Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. » Et tout ce qui a été écrit de lui s'est réalisé. Il le fallait, il était d'accord d'aller jusqu'au bout et nous pouvons vraiment le bénir pour cela. D'ailleurs, quand on arrive à la fin de l'évangile, par exemple dans l'évangile de Luc, je lis simplement au moment de sa résurrection, il trouve les disciples d'Emmaüs et de quoi va-t-il leur parler? Je me trouvais justement sur ce chemin, c'était je crois au mois de février-mars de cette année, on a eu l'occasion à plusieurs de faire ce chemin d'Emmaüs et de lire un peu tous ces textes. Et voilà que Jésus leur dit à ces deux disciples d'Emmaüs, Luc 24, Je vous lis depuis le verset 25, sauf erreur. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas, voyez, ne fallait-il pas, oui, il le fallait, amen, ne fallait-il pas, il le fallait que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire, et commençant par Moïse, c'est-à-dire toute la Torah, et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Waouh ! Ça devait être prodigieux de l'entendre raconter tout cela. Extraordinaire. Et un peu plus loin, je tourne une page dans ma Bible. Là, on se trouve au verset 44. Il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Oh là là, c'est prodigieux cette parole de Dieu, cette puissance de la parole de Dieu. Mais tant que leur esprit n'a pas été ouvert, ils ne pouvaient pas saisir les Écritures. Ils ont vraiment, je pense, reçu quelque part de cette révélation à ce moment-là. C'est vrai qu'au cours de ces 3 années de ministère, Jésus est inévitablement revenu sur cette future élévation. Souvent, quand il est question de l'élévation de Jésus, nous pensons bien sûr à son élévation dans la gloire. Amen. Et combien elle est glorieuse, celle-là. Mais avant celle-là, il y en a d'autres, en effet. Et par exemple, si on va dans l'évangile de Jean, voyez, on reste toujours dans Jean, parce qu'il y en a tellement de textes à ce propos, à ce sujet. Donc, si nous lisons Jean 12, par exemple, je vous lis depuis le verset 12-23, c'est Jésus, en fait, qui annonce sa crucifixion, et je le dis aussi au passage, même ses disciples avaient de la peine à comprendre ce qui se passait. C'est incroyable. Ça paraissait tellement simple. Alors, pour nous, c'est facile, parce qu'on peut voir le film à l'envers, on est d'accord? Donc, on n'est pas là pour leur faire un procès, c'est une évidence, n'est-ce pas? Mais ils étaient lents. Et là, Jésus leur dit ici, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Oh, génial, il sera glorifié. Et il dit, « en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Fruits, celui qui aime sa vie la perdra, celui qui la haïra. » La conservera pour la vie éternelle. On voit vraiment là qu'il est en train de parler de sa mort future, de sa mort prochaine, puisque nous sommes dans l'évangile de Jean au chapitre 12. Et puis un peu plus loin, il va dire, c'est pour cette heure que je suis venu, etc. Peut-être un peu plus loin encore, au verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et le texte est très clair. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il allait mourir, par élévation entre le ciel et la terre, un lieu de réconciliation entre Dieu et l'homme. La foule lui répondit, « Mais nous avons appris par la loi, et oui, par la loi, que le Christ demeure éternellement. » Formidable, n'est-ce pas? Comment donc est-ce que tu dis, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, ça veut dire finalement qu'il meurt à la croix. Les Juifs ne pouvaient pas supporter de voir un Christ souffrant. Ils avaient l'image d'un Christ glorieux qui venait pour régner, qui allait les libérer de l'Empire romain, n'est-ce pas? Il faut bien qu'on se mette tout cela dans la peau. Donc ce Jésus qui est venu, lui, le Messie, n'est-ce pas, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, eh bien, il n'a pas été compris, et tous ces textes nous le disent ici. Voyez cette question qu'il pose. Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement, et combien c'est vrai. Comment donc, dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Ou qui est ce Fils de l'homme? Grande question. Jésus est vraiment énigmatique pour eux. Il est déroutant, comme pour dire, mais il leur met en question, « Tu n'es pas vraiment le Messie. » Et Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. » Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. Nous pouvons vraiment dire que c'est seulement par révélation que nous pouvons comprendre les Écritures. Amen. C'est seulement par révélation que nous pouvons aussi marcher avec le Seigneur et comprendre vraiment là où nous en sommes. Mais voyez comme Jésus a bien répondu, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé ?» Qui est ce Fils de l'homme ? Donc ici, nous avons un peu la réponse. C'est vrai. Et voilà. C'est vrai que de tous les temps, d'ailleurs Paul le dira plus tard, que vraiment Christ est un scandale. Il va dire même, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Amen. Alors nous pouvons vraiment bénir le Seigneur de le connaître, de l'avoir rencontré et de pouvoir vraiment marcher avec lui. C'est ce que Paul dit donc dans les Corinthiens. Il dira plus loin, il va aussi parler de la résurrection d'ailleurs au chapitre 15. Paul ne va donc pas rester au mont Golgotha qui signifie le lieu du crâne, mais au chapitre 15 déjà, il annonce, je dirais par anticipation, son avènement et sa mise en place définitive pour son règne. Et là où il parle de résurrection, il parle aussi de règne. Il va dire dans ce chapitre fameux de 1 Corinthiens 15 sur la résurrection, « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. » Amen. Tout au commencement, Dieu avait dit, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Le salaire du péché, c'est la mort, mais le dernier ennemi qui sera définitivement vaincu, c'est la mort. Elle est vraiment réduite à l'impuissance. Et c'est merveilleux, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, et c'est ce qu'il est en train de se passer maintenant. Amen. Que son nom soit béni. Nous sommes déjà dans ce temps-là maintenant, par anticipation. Encore dans Corinthiens 15, où il est question de cette glorieuse espérance qui habite tous les chrétiens. Cette résurrection qui nous appartient est inéluctable, au point où Paul va dire encore, il faut que tout cela arrive. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Alléluia. Nous ne pourrons pas rentrer dans ce royaume de gloire sans passer par ce changement, par cette transformation. Et lorsque Paul en parle là, il parle de son avènement, qui peut arriver d'un moment à l'autre. Et au moment où cela arrivera, les croyants qui seront encore restés vivants sur la terre à ce moment-là, est-il dit, seront changés en un instant, en un clin d'œil. Amen. Et tous ceux qui seront morts en Christ ressusciteront. Et tout cela, cela arrivera à cause de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Quel parcours, quel défi, c'est vraiment remarquable. Toute la vie de Jésus a été marquée par cette détermination de faire la volonté de Dieu et de lui plaire avec une immense passion. Oh, cela a commencé avant même qu'il soit envoyé par le Père sur la terre. Mais Luc va nous dire qu'à l'âge de 12 ans, alors qu'il était au temple de Jérusalem, et qu'il était là, d'ailleurs déjà face à l'incompréhension de ses parents, eh bien, il leur répond, vous connaissez l'histoire, « Mais pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Amen. Il n'était pas en état de désobéissance par rapport à ses parents, entre guillemets, naturels. Je dis bien entre guillemets, évidemment. Mais il parlait ici de son Père qui est dans les cieux. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père à l'âge de 12 ans. Ce n'est pas merveilleux. Il faut. Il y a une force extraordinaire qui est ici derrière. Et que dire, par exemple, lorsqu'il est là en tant que bon berger? En tant que bon berger, dans Jean 10, il est dit qu'il avait le pouvoir de donner sa vie pour ses brebis ou de la reprendre. Tout ce que Jésus a fait, l'a fait dans la liberté. Il avait toujours le choix, n'est-ce pas ? Il n'y avait rien de forcé, mais pour lui, c'était quelque chose qui était déterminé et déterminant. D'ailleurs, il va dire, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas encore de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Amen. Les autres, lesquelles étaient-elles? Eh bien, il y en a eu d'autres depuis, vous êtes d'accord? On ne peut plus les compter. Et c'est par milliers que des hommes et des femmes se tournent vraiment vers le Seigneur et deviennent finalement des brebis du bon berger. Que son nom soit béni. Dans le siècle dans lequel nous sommes, a certainement vu plus de conversions que depuis l'histoire du début, depuis la venue de Jésus sur la terre. Alors bien sûr que le nombre d'habitants a augmenté, je n'ai pas les chiffres comme ça sous la main, mais c'est des évidences qui sont extrêmement, qui sont tout à fait fiables. Et nous pouvons bien sûr nous en réjouir. Il faut aussi que je les amène. Il dira aussi, dans la continuité, dans la cohérence qui est la sienne, son fardeau pour les perdus se retrouve jusque dans ses discours des derniers temps. Par exemple, dans Matthieu 24, par exemple, mais aussi dans Marc 13, 10, alors qu'il expose un petit peu les derniers temps, comment les choses vont se dérouler, comme nous pouvons plus ou moins les comprendre. Il y a en tout cas une chose qui est très claire, il va dire, de toute façon, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Amen. Et là aussi, il y a un « il faut ». Et je crois que ce « il faut », il est aussi pour nous, peut-être avant tout pour nous. Il s'agit de cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et Jésus va dire « alors viendra la fin ». Amen. C'est extraordinaire aussi. Alors, voilà un petit peu quelques-uns de ces passages. Comme je vous le disais tout à l'heure, je pourrais vous les laisser si vous le voulez. Il y en aurait d'autres, il est vrai. Alors, il y en a aussi, je dirais, il ne faut pas. Ça existe aussi dans la parole, inévitablement. Et c'est bon à prendre, amen, parce que c'est le meilleur qui est pour nous. Par exemple, je crois que c'est dans Jean 4, sauf erreur, oui. Il y en a qui disaient que c'était à Jérusalem qu'il fallait adorer, d'autres, il fallait adorer à Samarie. Mais voilà que Jésus saisit cette opportunité pour dire que le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité, et que ce n'est même plus simplement et seulement. Ce n'est plus à Jérusalem ou à Samarie qu'on va l'adorer, mais il faut, dit-il, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Il y a vraiment un changement d'économie qui est en route et c'est quelque chose aussi ici d'extraordinaire. J'aime bien l'histoire de Zachée aussi, où quelque part Jésus est là sur son chemin. Et puis un jour, il passe dans un village, et puis il y a ce fameux Zachée, collecteur d'impôts, péager et tout, qui en prenait un tout petit peu, peut-être même beaucoup au passage, n'est-ce pas? Voilà. D'ailleurs, peut-être qu'il se cache dans un arbre, c'est peut-être pour si possible que lui, il voit Jésus, mais que Jésus ne la voit pas, le texte ne le dit pas, mais on peut se l'imaginer. Mais voilà que dans cette immense foule, tout d'un coup, il s'adresse à Zachée qui est dans son arbre et qui lui dit, « Zachée, il faut que tu descendes de cet arbre, amen, et il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison, amen. » C'est extraordinaire de voir comme le Seigneur sert toucher le cœur qui serait le plus en retrait, le plus caché, même dans une foule. Et Jésus est reconnaissant. Et d'ailleurs, Zachée va descendre et il va amener Jésus dans sa maison, je crois. En tout cas, Jésus va lui dire, aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison-là. Amen. À partir de là, sa vie a changé. Elle était remise en ordre et il s'est mis à restituer un petit peu toutes ces larcins et tout. Et puis, il est devenu un homme extrêmement, extrêmement généreux. Il faut que je descende aujourd'hui dans ta maison. On va un peu plus loin, disons, après, dans les Actes des Apôtres, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de textes qu'on retrouve après en parallèle avec les apôtres dans les Actes des Apôtres. Mais par exemple, à un moment donné, il y en a qui ont dit, parce que tout d'un coup, l'Évangile n'était plus là adressé aux Juifs, mais des païens venaient à la foi, des Grecs, etc., etc. Et la question se posait, est-ce qu'il faut qu'ils passent par la circoncision? Et alors, ces Juifs disaient, oui, il faut qu'ils se fassent circoncire. Il y a eu ce concile à Jérusalem d'entre 15, et il était très clair qu'ils n'avaient pas besoin de se faire circoncire. Vous voyez, il y a après toutes sortes de situations dans lesquelles il faut vraiment aussi trouver le chemin, mais les choses sont moins bien posées, et puis elles sont toujours très claires. J'aime beaucoup dans Luc 13 aussi cette histoire, l'histoire de cette femme qui, pendant 18 ans, avait le dos courbé, est-il dit, n'est-ce pas, qui était fortement malade, et finalement, elle était fille d'Abraham, et pendant 18 ans, elle avait le dos courbé, et Jésus l'a guérie, elle a pu se redresser, elle était guérie, elle était délivrée le jour du Shabbat. Alors bien sûr qu'il y a eu des réactions, mais Jésus n'a pas pris la chose de cette manière, n'est-ce pas? Et il leur a dit, mais vous-même qui pratiquez le Shabbat, est-ce que le jour du Shabbat, vous ne donnez pas à boire à votre ânon ou bien à votre bœuf? Donc, ne fallait-il pas que cette fille d'Abraham soit délivrée ce jour-là? Amen, amen, amen. Et elle était complètement délivrée. Que son nom soit béni. Je me réjouis de, je crois que c'est au mois d'octobre, nous allons refaire cette année un séminaire sur la délivrance. Et c'est une bonne chose que nous puissions revivre aussi des choses ensemble à ce moment-là. Alors c'est intéressant dans cette histoire, je ne vais pas longer là-dessus, mais il y avait une nécessité et ça devait se passer à ce moment-là. On voit dans les évangiles qu'il y a des choses qui doivent avoir lieu à tel et tel moment et dans tel et tel lieu. À un moment donné, on va dire, il fallait qu'il passe ici ou bien il fallait qu'il aille là, etc. Vraiment, le chemin de Jésus est vraiment marqué. Pour revenir à cette femme, c'est intéressant de voir que il va leur dire, mais le jour du Shabbat, vous libérez votre animal, vous le détachez. Vous le délivrez, vous le déliez pour qu'il puisse aller boire. Amen. Et il utilise le même mot, le même verbe pour parler de délivrance en disant, mais cette femme, elle avait aussi besoin d'être délivrée. Amen. Elle avait besoin d'être détachée. C'est le même verbe dans l'original pour dire qu'il y a certainement un jeu de mots. Si vous vous permettez de libérer vos animaux pour leur donner à boire, on ne pouvait pas attendre plus longtemps aussi pour que cette femme soit vraiment libérée. Voilà, que son nom soit loué pour toutes ces paroles, c'est « il faut ». Et puis, effectivement, Jésus l'a bien dit que, en parlant des derniers temps, que cette bonne nouvelle du royaume donc, sera annoncée dans le monde entier. Mais juste aussi, ça m'a frappé en relisant ce passage dans Matthieu, parce que là j'avais lu dans Marc 13, Dans Matthieu, il va dire ceci, si je le retrouve, voilà, c'est ici. Il parle, il y aura bien sûr des faux prophètes, etc. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Que le Seigneur nous garde. Et aussi, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Mais il faut premièrement que cette bonne nouvelle du royaume soit annoncée, qu'elle continue donc effectivement d'être annoncée. Quelle place nous-mêmes donnons-nous au Seigneur? Parce qu'on pourrait voir aussi beaucoup d'autres textes qui nous concernent dans ce « il faut », mais là Jésus est vraiment notre modèle, notre exemple. Est-ce que nous serions encore hésitants à remplir notre mandat, je dirais même notre destinée, parce que dans le ciel, quelque part, il est écrit la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour chacune de nos vies. Amen. Tous nous servons en notre temps, comme il sera dit au sujet de David dans les Actes des Apôtres. Jean-Baptiste lui-même, Jean le Baptiste, sans pression malsaine ou manipulation quelconque, n'est-ce pas? Eh bien, il va aussi dire cette parole, ben justement encore dans l'évangile de Jean, et c'est un peu par là que je vais terminer. Jean-Baptiste va dire, il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Et voilà encore un « il faut » de la part de Jean-Baptiste. Et il a eu de telles rencontres avec Jésus, ça a tellement marqué sa vie aussi qu'il disait, mais je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Je n'en suis même pas digne. Vous imaginez le respect, la profondeur, combien il était marqué par la personne de Jésus-Christ. Et bien que nous aussi, nous puissions de plus en plus apprendre à vivre et à marcher comme il a marché, que son nom soit béni, que notre prière soit aussi, oui Seigneur, il faut aussi que tu grandisses au milieu de nous, dans ma vie, que je puisse diminuer, mais que tu puisses grandir. C'est vrai que Jean-Baptiste dit ça au moment où il y en a qui viennent dire, mais tu sais, là, celui que tu as rencontré, eh bien maintenant, il est en train de faire des baptêmes. Donc, est-ce que ce ne serait pas un petit peu un concurrent, etc. Il y a toute une histoire là derrière, très intéressante, et souvent, on cite ce texte, il faut qu'il grandisse hors contexte, mais c'est très intéressant de le revoir dans son contexte. Enfin, je trouve vraiment passionnant de voir ce que c'est que la parole de Dieu et que Dieu mette dans nos cœurs de plus en plus des bons choix pour nos vies avec de la détermination. Amen. Non pas dans du légalisme, non pas quelque chose qui se fait à contre-cœur, mais de plein cœur, de plein gré, avec le Seigneur et pour lui, avec ce privilège énorme que nous avons de pouvoir le servir. Nous le bénissons, vraiment. Nous-mêmes aussi, avec mon épouse, je suis reconnaissant de pouvoir continuer de le servir. Nous avons fêté cette année 50 ans de mariage. Au mois de juillet, c'était notre premier départ missionnaire donc en Afrique, donc ça fait quelques années. C'était au moment d'ailleurs où les hommes étaient sur la lune, etc. Eh bien voilà, d'ailleurs l'un d'eux a dit paraît-il, le plus grand événement sur la terre, ce n'est pas que l'homme a marché sur la lune, mais c'est que Dieu a marché sur la terre. Amen. J'aime beaucoup cette parole. Il y a eu pas mal d'émissions à la télé, c'est vrai, c'est étant vu au travers de cet événement, puisque ça avait aussi 50 ans. Bon, ils n'ont pas parlé de notre mariage, disons, mais peu importe. Mais en tout cas, voilà. J'étais frappé de voir quand même, je ne le savais pas du tout, mais je crois que c'est Collins qui, la première chose qu'il a faite, en arrivant sur la Lune, vous savez ce qu'il a fait? Il avait emporté avec lui du pain et du vin. Et il a pris là-haut la Sainte Communion sur la Lune. Effectivement, j'ai vu l'image où la porte s'ouvre du module, n'est-ce pas, de l'aigle, du module. Et c'est la première chose qu'il a faite. Je ne sais pas tout ce que ça veut dire, mais vous voyez que le nom du Seigneur, d'une manière ou d'une autre, continue de passer ici et là. Peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup, moi je ne le savais pas, mais ça m'a vraiment réjoui. Et combien c'est important de prendre le repas du Seigneur, de communier au corps du Christ. Ceci est mon sang. Ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi, comme on l'a fait tout à l'heure. Et on ne veut pas le faire par habitude, amen, mais vraiment d'une façon toujours plus vraie, plus juste et plus profonde. Dans Jean 6, d'ailleurs, vous savez, c'est là que Jésus va dire qu'il est le pain de vie qui est descendu du ciel et qui a donné sa vie au monde. Et il va dire, celui qui mange mon sang et qui boit ma chair, eh bien, comment ? C'était pour voir si tu écoutais, chérie. Qu'est-ce que j'ai dit de faux? Vas-y. Ah oui, oui. Mais de toute façon, c'est elle qui corrige tous mes trucs, donc merci beaucoup. Alors, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, amen, il vivra, il a la vie éternelle. Que son nom soit béni, amen. Mais il y en a qui n'ont pas compris. Pour nous, me semble-t-il, cela veut dire que nous acceptons toutes les paroles du Seigneur, amen. Toute la vie de Jésus, que nous la prenons en application, c'est ça que c'est, vivre avec Jésus aujourd'hui, plus ce repas bien sûr. Et vous savez qu'à ce moment-là, il y en a qui n'ont pas pu suivre parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'il est en train de dire. Et il y en a qui ont dit, mais cette parole est trop dure, qui peut l'écouter? Et il y en a qui l'ont quitté à ce moment-là, dans l'incompréhension, peut-être manque de révélation. Jésus n'a jamais demandé à personne de le suivre. C'est d'une façon totalement volontaire, bénévole que nous le suivons. Et vous ne voulez pas vous en aller? Et l'apôtre Pierre va dire tout de suite, « Mais Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, c'est-à-dire le Messie, amen, le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors bien sûr que ça a choqué parce que Jésus se considérait comme le Fils de Dieu, ce n'est pas acceptable par tout le monde, nous le savons, on peut le comprendre, il faut de la révélation, et puis voilà. Mais, et nous avons cru, nous avons connu, amen, et nous aussi, nous voulons continuer d'avancer avec lui. Oh, ça n'a pas été toujours super pour les disciples, on est d'accord. Hein. D'ailleurs, avant la croix, même si tous t'abandonnaient, Seigneur, eh bien, moi je ne vais pas t'abandonner. Il utilise même le verbe « falloir » là aussi, comme pour dire, ben moi, il faut que j'aille et puis j'irai, n'est-ce pas? En tout cas, moi, Pierre, et le texte biblique va jusqu'à dire, on l'oublie parfois, et tous les disciples dirent la même chose. On parle souvent de reniement de Pierre, n'est-ce pas? Mais dans deux évangiles, en tout cas, il est dit que les disciples tous, on a des fois de bonnes dispositions, nos capacités ne sont pas là, mais par la grâce de Dieu, nous pouvons y arriver. Que son nom soit béni. Amen. La dernière parole que je vous donne, c'est celle qui se trouve dans Philippiens 2, où il est dit ceci, c'est Dieu qui produit en nous, en vous, en chacun de nous, c'est Dieu qui produit en nous, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Si vraiment nous le voulons, nous pouvons l'avoir. Amen. Et c'est lui qui produit ça dans nos vies. Donc nous nous attendons à lui. Il produit en nous le vouloir et le faire. Et avec lui, toutes choses deviennent possibles. Alléluia. Que son nom soit loué et béni. Et que Dieu bénisse la suite de ces semaines, de cet été qui passe. Peut-être...